Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Ekman pour son livre « Histoire mondiale du vin français ». Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, sommelier, et vous venez de publier chez Ellipse ce livre qui retrace du coup le parcours du vin français, du vin en général également, l'historique du vin.
Oui, alors je le retrace d'une manière particulière, parce qu'en fait le livre que j'ai écrit vise à montrer que le vin français, qu'on a un peu trop tendance à penser comme une espèce de construction nationale, a été énormément construit par des pays étrangers, notamment tous les pays du nord de l'Europe. Et j'essaye d'élargir un petit peu la perspective et de montrer que c'est finalement une construction très collaborative avec plein de pays complètement insoupçonnés et que finalement, le génie français, entre guillemets, du vin et de la vigne, qu'on revendique à tort ou à raison, au final, ce n'est pas qu'une œuvre franco-française. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant, ce qui m'a semblé intéressant à expliquer, à raconter, parce que c'est une épopée qui commence depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque extrêmement contemporaine du XXIe siècle. Et j'essaye de mettre ça en perspective dans vraiment, c'est pour ça que je l'ai appelé « Histoire mondiale », de montrer qu'en fait c'est un monde et qu'en fait le vin depuis ses débuts c'est un des premiers produits de la mondialisation en termes de commerce, en termes de culture, en termes d'influence, etc. Et donc en fait je remets les choses en perspective.
Oui, vous parlez notamment de la Hollande.
Oui, alors nos amis hollandais qu'on connaît bien dans le Diois, on connaît très mal l'histoire en fait des vignobles en France, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de vignobles qui ont été créés et implantés par les Hollandais. Pourquoi ? Parce que les Hollandais, on pourrait même dire les Anglais, sont des peuples qui n'ont pas de vignes pour des raisons climatiques, c'est-à-dire qu'évidemment chez eux c'est très compliqué de faire du vin. Par contre, ce sont des commerçants et ce sont des grands consommateurs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus en France, qu'ils ont utilisé comme un espèce de grand terrain de jeu. Ils se sont dit, bah voilà, on va implanter des vignobles ici, notamment sur la façade atlantique parce que ce sont des marins, donc ils font du commerce avec des bateaux. Et le plus pratique, c'était de mettre des vignobles sur la façade atlantique, qui avant étaient des régions de petits vignobles. Et sous leur influence, c'est devenu des vignobles absolument énormes, tout ce qui est Cognac, Bordeaux, etc. C'était des vignobles périphériques qui sont devenus des vignobles centraux en France. Sous l'influence des Hollandais, des Anglais notamment, et c'était pas du tout une création française en fait. Et ils ont implanté, notamment pour le cognac par exemple, les Hollandais sont venus mettre des alambics, faire de la distillation, ils ont fait planter la vigne aux paysans français, et ils ont racheté toute leur production. Donc en fait, ce n'est vraiment, on va dire, que des vignobles qui ont été implantés pour satisfaire aux exigences d'un grand commerce, qui était un commerce capitaliste avant l'heure, un commerce international, mondial. Et ce, dès le XVIe siècle en fait. Donc voilà, nos beaux vignobles de Cognac, de Bordeaux, d'Armagnac, etc., en tout cas sur la façade atlantique, ce seront des pures créations anglaises et hollandaises.
Oui, et puis là, on parle du VIe siècle, mais vous remontez bien, bien, bien plus loin. 6000 ans avant Jésus-Christ, apparemment, les premières traces de vinification.
Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand on dit « oui, la France, c'est le pays du vin », moi, je commence mon livre en expliquant que non, la France est un jeune pays du vin, puisqu'en termes d'histoire, et même là, on va aller jusqu'à parler de la préhistoire, les premières traces de vinification connues, donc c'est entre 7 et 8 000 ans avant Jésus-Christ, dans le Caucase, donc vraiment tout à fait à l'est de l'Europe, à la frontière avec l'Orient, en fait, donc dans les pays qui sont aujourd'hui l'Arménie et la Géorgie. Ça montre un peu que les origines sont déjà très lointaines au niveau géographique et aussi très lointaines au niveau historique. Et là, pour le coup, on est vraiment dans la préhistoire. Donc on connaît ça via l'archéologie. Le vin arrive en France avec les Grecs, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc le vin qui arrive en France a déjà des millénaires d'histoire. Donc la France est un jeune pays du vin, dans le sens où elle était initiée au vin par les Grecs, qui ont amené leur cépage, qui ont commencé à planter du vin et qui ont commencé à montrer aux Gaulois, donc, notamment sur la frange méditerranéenne, que voilà, il y avait cette boisson qui existait. Les Gaulois en sont rapidement devenus fous parce qu'évidemment, ils ne connaissaient que la cervoise, donc une espèce de bière un peu fadasse. Ils ont bu du vin et ça a été le coup de foudre. Ils ont voulu en faire eux aussi. Et ils en ont acheté beaucoup. C'était vraiment un énorme marché pour les Grecs. Donc c'est là qu'on voit, quand je parle de mondialisation, qu'en fait, on a un grand commerce déjà dès l'Antiquité. C'est le principal produit de commerce. Le vin, c'est ce avec quoi on fait le plus d'argent, parce que c'est le produit avec une énorme valeur ajoutée. Donc les Grecs en font un commerce monstrueux dans toute la Méditerranée, et ils arrivent sur les rivages donc de Marseille, et ils initient les Gaulois à ce commerce. Donc les Gaulois vont planter de la vigne, ils vont en acheter beaucoup, et c'est là que l'histoire commence. Donc l'histoire commence plusieurs millénaires après le vrai début de cette histoire, en fait.
Oui, et puis finalement, on profite d'un climat très, très propice à ces plantations, mais aujourd'hui, ben, les bons vins sont aussi au Portugal, en Argentine, un peu partout dans le monde finalement.
Alors,
Est-ce que c'est qu'une histoire de climat et historiquement, bien entendu, de commerce, mais finalement c'est le climat qui va déterminer où on fait du vin.
effectivement, il y a une notion de climat, puisque la vigne est une plante qui ne pousse pas n'importe où. Donc la France a la chance d'être située au niveau du 45e parallèle, donc c'est une ligne qui va relier Bordeaux jusqu'à Valence à peu près. Et c'est la ligne, on va dire, des grands vins, des grands vignobles. Donc voilà, la France, toute la façade sud, on va aller jusqu'au nord en Champagne, etc., qui sont vraiment les limites septentrionales de la vigne. Ça permet de faire du vin. Ce qui permet aussi d'avoir des vignobles, c'est que finalement, au final, quand on parle de commerce, il suffit pas d'avoir des bons terroirs, des bons climats pour faire du vin, il faut aussi qu'il y ait des gens qui l'achètent. Donc ce qu'on constate et ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est que les vignobles sont mortels. Il y a des vignobles qui étaient très connus dans l'Antiquité qui ont complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne pour acheter les vins. Et si personne n'achète les vins, les vignobles dépérissent car la vigne, c'est quelque chose qui est très cher. Ça nécessite beaucoup d'investissement, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur la notion économique. Donc tous les peuples, je reviens sur ces peuples du nord de l'Europe, les Anglais, les Hollandais qui n'avaient pas de vigne, ont été en acheter. Bon, ils ont été en France, certes, mais ils ont été au Portugal, ils ont été en Espagne. Parce que on était sur des façades de voies maritimes de navigation. Donc ça leur permettait de faire du business de gros, on va dire, de charger il y avait déjà des cargos à l'époque où, d'ailleurs, l'origine, quand on parle d'un tonnage pour les navires, ça vient de là. C'est-à-dire que le tonneau était l'unité de mesure qui définissait la capacité de charge d'un bateau. Donc un navire de 60 tonneaux, clairement, il embarquait 60 tonneaux de vin, qui faisait à peu près une tonne. C'était vraiment les gros tonneaux qui faisaient un peu plus de 900 litres. Donc tous ces vignobles qu'on connaît aujourd'hui, les vignobles plus connus, donc effectivement le Porto au Portugal, les vignobles espagnols, le Jerez dans le sud de l'Espagne, ils ont eu aussi leur notoriété parce que certes ils ont les bons terroirs et le bon climat, mais surtout ils ont fait l'objet d'un commerce international, tout comme les vignobles de France. Donc en fait, finalement, on peut définir le fait que c'est les pays du nord de l'Europe qui ont créé les vignobles du sud de l'Europe, en investissant énormément de sous et de capitaux, que les pays du sud peut-être n'avaient pas autant que les pays du nord qui étaient moins riches.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci. La suite est dans le livre. Aujourd'hui, vous êtes sommelier et historien. Vous travaillez où?
Alors, à la base, oui, je suis historien de formation. Ensuite, j'ai un peu dérivé vers le vin. Donc, j'ai exercé plusieurs fonctions dans la sommellerie. J'ai notamment enseigné au lycée hôtelier de Thun-l'Hermitage. Et c'est en créant mes cours pour mes étudiants, mes futurs sommeliers, que j'ai eu la vision de ce sujet qui avait été, à mon avis, insuffisamment exploité, et je me suis dit là, il y a quand même quelque chose à faire, donc je vais essayer de traiter le sujet sous cet angle. Aujourd'hui, je continue dans l'enseignement, donc j'exerce notamment à l'ISV à Montpellier, qui est une école, une business school dédiée au vin, qui font des masters en commerce international de vin. Je travaille pour le Salon Millésime Bio à Montpellier, je fais de la formation aussi pour des organismes privés, voilà, entre diverses activités. Et j'écris aussi, je continue d'écrire, voilà, des ouvrages futurs.
Sur la Clairette de Die, par exemple?
Alors, la Clairette de Die, voilà la question piège. Non, je la bois déjà, c'est pas mal. J'ai pas de projet en cours sur la Clairette de Die.
Merci beaucoup, Arnaud. Et votre livre donc est disponible chez Ellipse, Histoire mondiale du vin français, Arnaud Ekman. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.